Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Qu'y a-t-il de plus beau et de plus léger qu'un papillon, comme un de ces immenses morphos aux ailes bleues métalliques bordées de noir que s'arrachent les collectionneurs? Et qu'y a-t-il de plus horrible et de plus lourd à supporter que l'enfer du bagne, comme celui de Cayenne en Guyane? Et quel lien y a-t-il entre les deux? C'est pour explorer ce lien, étonnant mais inscrit dans l'histoire, que Jean Rollin nous embarque aujourd'hui dans son nouveau livre qui n'est ni un roman d'aventure, ni une encyclopédie savante, plutôt le récit d'un écrivain qui va voir pour se rendre compte et qui raconte à travers des petits détails et des petits destins les beautés et les laideurs d'un monde afin d'en faire ressentir le sens, l'essence et l'essence. Les papillons du bagne, le nouveau livre de Jean Rollin, est paru chez POL et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jean Rollin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On entre dans le livre comme on entre dans une serre aux papillons de la région parisienne. Mais très vite, vous nous ramenez en arrière et sur un territoire complètement différent. Nous voici dans le deuxième chapitre avec vous, 8 mois en arrière, donc sur la Côte d'Azur et sur les traces de l'écrivaine et poétesse britannique d'origine néo-zélandaise, Catherine Mansfield. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce personnage ?
Ce qui m'intéressait, en fait, tout ça, c'est parti d'un livre que j'ai trouvé dans ma bibliothèque où je ne savais pas qu'il se trouvait, dont j'ai conclu qu'il avait appartenu à ma mère. Et c'est comme ça qu'il s'était retrouvé chez moi, puisque je ne l'avais jamais acheté, qu'on ne me l'avait jamais donné non plus, pas dans mon souvenir. Il était une édition fautive, d'ailleurs, en français, du journal de Catherine Mansfield, d'extrait de ce journal. Le volume en question était daté de 1938, je crois. Bon. Donc, par curiosité, je l'ai feuilleté. Après, je l'ai comparé avec une édition plus complète du journal. J'ai remarqué qu'il y avait des omissions assez étranges. Enfin bon, tout ça n'a d'ailleurs pas grand intérêt. Mais je me suis demandé d'abord ce qui faisait que peut-être ma mère avait eu une relation privilégiée avec Catherine Mansfield. Alors, une relation privilégiée, pas, elle ne l'a pas connue, mais ce qu'elles avaient en commun, notamment l'une et l'autre ont souffert de la tuberculose. Bon, Catherine Mansfield en est morte, ma mère en a réchappé, et elles avaient un lien peut-être plus fort que l'une et l'autre avaient perdu à la guerre un frère. Démesurément aimé, quoi. Voilà. Catherine Mansfield avait perdu son frère à la guerre de 14 et ma mère dans la guerre d'Indochine. Voilà. Donc, je pense que ça crée une relation très forte et que c'est peut-être la raison pour laquelle ma mère avait spécialement aimé Catherine Mansfield. Et puis, du coup, l'idée m'est venue. J'ai appris beaucoup de choses sur Catherine Mansfield que je connaissais pas bien. D'abord, je l'ai lu, et puis j'ai découvert qu'elle avait passé une grande partie de sa vie de sa brève existence sur la Côte d'Azur, avec deux pôles qui sont Bandol et Menton. Et comme c'est à peu près toute l'étendue de la Côte d'Azur,
fait 200 kilomètres, même. D'ailleurs, à un certain moment, vous envisagez, lorsque vous êtes sur le terrain, de faire la distance à pied. Bon, finalement, vous le faites pas, mais on sait que vous aimez beaucoup marcher, d'ailleurs.
Si j'ai envisagé de relier Bandol et Menton, c'était évidemment à pied. Oui,
voilà.
Je vais faire la Côte d'Azur à pied. Voilà.
Sur les traces donc de ce personnage, Catherine Mansfield. Comment d'ailleurs vous abordez un lieu, Jean Rollin, quand vous vous rendez quelque part? Dans quel état d'esprit vous vous mettez lorsque vous abordez un territoire?
Ça dépend de quel type de territoire. J'essaie d'être aussi ouvert que possible à tout ce qui peut survenir.
Mais donc vous mettez vos sens aux aguets, comme ça vous...
Oui, je suis
ça
assez
ça demande une préparation
attentif,
mentale
Non, ça, je ne fais pas de yoga.
C'est parfaitement naturel, faites-vous.
Oui, enfin, je pense que le sens et le goût de l'observation me sont assez naturels. Oui. Voilà. Mais ça n'empêche pas que je peux passer à côté de choses, hein, comme tout le monde.
Oui, et on a l'impression qu'en fait, vous vous nourrissez de toutes vos rencontres, de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez, de tout ce que vous pouvez sentir.
Mais c'est-à-dire que quand on marche, spécialement quand on marche, comme je l'avais fait auparavant autour de Paris, sur ce qui constitue un peu une limite entre la ville et la campagne, où là, dans l'arrière-pays de la Côte d'Azur, quand, si on marche en dehors de sentiers qui sont faits pour ça, sur des sentiers de randonnée balisés...
En dehors des sentiers battus, oui.
On est à peu près assuré de faire des rencontres étonnantes. Enfin, on peut n'en faire aucune pendant assez longtemps, mais quand on en fait, c'est souvent des rencontres étonnantes. Comme là, par exemple, enfin, une des premières dont je me souviens, et cette dame... qui poussait une brouette avec des grands bidons qu'elle allait remplir à une fontaine et qui squattait un bâtiment en ruine avec un petit groupe de squatteurs nigérians. Alors pourquoi des gens du Nigeria s'étaient retrouvés là ? Mais enfin, bon, voilà, donc c'est une rencontre étonnante et qui est tout à fait le type de rencontre qu'on fait quand on marche comme ça, en dehors des itinéraires touristiques.
Oui, et donc vous laissez vos pas décider de votre direction,
oui,
des
enfin,
endroits
non,
que vous
êtes. Oui,
pas
tout à fait, c'est que je vais quand même d'un point à un autre. Je vais d'un point à un autre, je choisis comme là la distance. Si je voulais, si j'avais persisté dans mon projet de faire toute la Côte d'Azur, c'est quand même assez long à pied. Donc je choisissais soit en fonction de de l'intérêt prévisible quand on regarde la carte de tel itinéraire, soit aussi de sa brièveté. Je choisissais pas forcément le plus long.
Voilà. Et donc c'est dans ce contexte que vous vous rendez sur place et que finalement votre projet sur Catherine Mansfield ne va pas à son terme. Nous sommes voilà. À la page 57 de votre livre.
De nombreuses hypothèses ont circulé dans les milieux autorisés sur les raisons pour lesquelles ce soir-là, de retour dans ma chambre à l'hôtel Ibis Budget, avec vue oblique sur la pelouse vert fluo du stade Perruc, j'avais décidé, soudainement, de renoncer à mon projet de parcourir à pied la Côte d'Azur. Chacune de ces hypothèses, bien sûr, comporte une part de vérité. Ainsi, de celle relative aux deux chats noirs dans le cimetière de la Ritorte, dont la rencontre aurait pu m'inspirer des craintes pour la suite. Mais le plus vraisemblable, c'est tout de même que mon renoncement ait pris sa source, si je puis dire, dans la vision que j'eus ce soir-là, en sorte de songe de Jacob, de la cohorte d'écrivains qui, depuis le milieu du XIXe siècle et au moins jusqu'au milieu du siècle suivant, s'étaient pressés sur la Côte d'Azur, y compris parmi les plus grands. Certains pour y mourir, la plupart non, quelques-uns durant les 5 années de l'occupation à la recherche d'un refuge précaire contre les dangers qui les menaçaient. Confronté à une telle profusion, mon projet me parut mesquin. Peut-être d'ailleurs n'y avais-je jamais vraiment cru. Et puis il advint que le même soir, alors qu'en proie au découragement, je zappais sur les chaînes du téléviseur dont ma chambre était équipée, je tombais sur le film « Papillon », adapté du roman d'Henri Charrière par Franklin J. Schaffner. Et plus précisément, au moment où je me connectais, tombais-je sur la scène dans laquelle Steve McQueen et Dustin Hoffman s'efforcent, avec maladresse, de capturer des papillons du genre Morpho avant de les remettre à un agent de l'administration pénitentiaire qui, plus tard, à l'occasion d'une tentative d'évasion et au mépris d'un accord conclu préalablement avec eux, les fera tomber dans un piège. Or, le lien que cette séquence faisait apparaître entre le bagne, soit la quintessence de la violence et du vice, pour parler un langage d'époque, et la chasse aux papillons, que le public se représente plutôt comme un loisir d'enfant sage ou de vieux cinglé, ce lien ainsi révélé excita ma curiosité au point de m'inspirer un désir irrépressible d'y aller voir.
Et pour moi, Jean Rollin, le passage que l'on vient d'entendre dit énormément de choses à la fois de l'écrivain et sans doute de l'homme que vous êtes. Je voudrais qu'on décortique quelques petits points ensemble. D'abord, l'ironie de la première phrase. Hein, quand vous écrivez, de nombreuses hypothèses ont circulé dans les milieux autorisés sur les raisons pour lesquelles vous avez renoncé à votre projet. On sent que vous ne vous prenez pas trop au sérieux, que vous vous moquez de vous-même. Alors on peut saluer votre modestie, votre lucidité, et puis aussi on peut se dire que c'est un procédé littéraire pour instaurer une sorte de connivence, une complicité, une proximité avec le lecteur. Vous confirmez ?
Oui, certainement. Enfin, d'une manière générale, l'usage de l'humour dans la littérature est destiné notamment à établir cette connivence avec le lecteur. Hein.
Oui.
Et puis, il s'agit aussi quand même de faire passer ce truc a priori un peu énorme, de cette bifurcation soudaine.
Oui,
quand
c'est
on
énorme
est parti
parce que...
pour... pour faire la Côte d'Azur, et finalement, on va se retrouver en Guyane.
Voilà, c'est extraordinaire, parce que les 53 premières pages du livre, c'est un livre très court, hein, il fait moins de 200 pages. Les 53 premières pages du livre, c'est pas une impasse, parce que vous ressortez pas en arrière, mais c'est une fausse piste, quoi. Vous commencez votre voyage par un détour, en quelque sorte.
Oui, c'est pas une fausse piste, je préfère le mot détour, oui, parce que malgré tout, non seulement je pense que elle est pertinente, cette première partie, mais finalement, elle colle assez bien avec la seconde. Enfin, c'est pas de...
ouais.
Mais encore fallait-il trouver cette histoire qui, d'ailleurs, est à peine arrangée. Hein, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. J'ai vu effectivement, je crois, ce film dans ma chambre d'hôtel. Et je me suis dit, tiens, mais voilà comment ça se fait, c'est quoi le lien entre le bagne et la chasse aux papillons,
voilà,
et
ça,
c'est quand même quelque chose de surprenant.
Voilà, et ça c'est intéressant, parce que l'un des premiers mots que vous avez utilisé tout à l'heure en répondant à ma première question à propos de Catherine Mansfield, c'est le mot curiosité, et ensuite vous avez enchaîné avec le mot interrogation, jeu de thé, et donc on est vraiment finalement dans le même processus intellectuel, quoi. Ce lien entre les papillons et le bagne qui vous inspire, je cite, ce désir irrépressible d'y aller voir. Alors cette expression désir irrépressible, dans cette expression-là, dans ce désir, il y a une dimension physique, il n'y a pas seulement une dimension intellectuelle.
Oui, enfin, il y a un peu de licence poétique là aussi.
Aussi, bon, oui, tout de même.
Bien sûr, c'est
voilà.
Pas, ce désir était répressible, j'aurais oui. pu le réprimer.
Mais oui, bon, quand même, mais vous n'en aviez pas envie en fait. Vous
non,
êtes
non,
plutôt
non,
du genre
oui.
à réprimer vos désirs, genre
oui,
là.
Oui, ça m'arrive, oui. Mais en l'occurrence, c'est vrai que j'avais, oui, voilà, ces images m'ont vraiment surpris, je dirais interpellé, pour employer un mot que je n'aime pas, mais j'ai eu le désir, sinon immédiatement, de partir pour la Guyane, en tout cas d'enquêter sur la pratique de la chasse aux papillons par les bagnards.
Voilà. Voilà, et donc
à vrai dire, cet aspect-là, j'ai fait pas mal de recherches, notamment en bibliothèque, de recherches oui. notamment aux archives de l'Outre-mer, pour savoir comment c'était possible, comment ça s'était passé.
Après, oui, alors vous faites effectivement, avant de partir, le plein d'informations. Hein, vous allez voir un biologiste, Vincent Débat, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle,
oui.
et vous lisez énormément. Donc vous lisez des archives de presse, vous lisez des articles, des livres sur les papillons, sur la chasse aux papillons, sur le bagne de Cayenne, sur la vie des forçats.
Voilà, et ce que j'ai fait aussi, avant de partir, c'est d'aller au salon... je ne sais plus comment il s'appelle,
voilà,
ce salon.
La foire aux papillons de Juvisy.
La foire aux papillons et aux insectes, la foire aux
voilà.
insectes de Juvisy.
Alors, on va s'arrêter quelques secondes, le temps d'une petite pause musicale, et ensuite on part à Juvisy ensemble. A tout de suite, Jean Rollin.
Desse negócio de você viver sem mim.
Chega de Saudade et Pedro Mizutani dans la playlist RFI de ce mois de mai et dans VMDN avec l'écrivain Jean Rollin qui publie Les Papillons du Bain chez POL. Et pour reprendre l'expression qu'on commentait à l'instant, vous avez donc assouvi ce désir irrépressible d'y aller voir. Mais avant de vous rendre en Guyane et de remonter donc les traces des papillons et des bagnards chasseurs de papillons, vous préparez votre voyage et vous allez donc à Juvisy. Alors Juvisy, c'est tout près de Paris, dans le département de l'Essonne. Et la foire aux papillons de Juvisy, c'est au mois de septembre, le dernier week-end du mois de septembre, tous les ans, c'est un peu la mecque des lépidoptéristes de France. C'est pas un mot que j'emploie tous les jours, lépidoptériste, Jean Rollin. C'est là que tous les passionnés de papillons se retrouvent, vendent, achètent, échangent, discutent. Et c'est là que finalement, vous allez chercher aussi des renseignements complets, des contacts, des adresses, des interlocuteurs. Tout vous intéresse, en fait.
Oui, bien sûr. Enfin, d'une part, j'ignorais, comme je pense la plupart des gens, l'existence de cette foire.
Je confesse que moi aussi, voilà, je l'ignorais.
J'étais curieux à la fois de... Bon, j'ai été moi-même, enfin, quand j'étais très jeune, un chasseur de papillons, donc j'étais assez... Cette passion m'a un peu quitté, mais j'étais quand même curieux de voir... Là, il y a des quantités absolument phénoménales de papillons en boîte, c'est-à-dire de papillons morts.
Accrochés avec l'épingle.
Voilà, transpercés par des épingles, mais enfin, il y en a des séries absolument formidables. Quoi. Et ça a quelque chose de fascinant, ces séries, de voir dans une même boîte 100 exemplaires, par exemple de l'Apollon, qui est un papillon qu'on ne trouve qu'en altitude dans les montagnes et qui est d'ailleurs... peut-être en voie d'extinction, bon, c'est assez surprenant. Et puis des morphos, bien sûr, des quantités de morphos,
voilà, parce que c'est quand même en grande partie pour ça que j'allais. Voilà, le morpho, c'est le papillon qui vous intéresse singulièrement.
Mais sur Juvisy, je précise quand même qu'on peut s'y procurer aussi des chrysalides, par exemple.
Ah oui, donc attendre après que la métamorphose se produise.
Voilà, exactement. Et que la beauté éclose. Et on aura chez soi un papillon vivant.
Bon, alors le morpho, justement, Jean Rollin, puisque vous me tendez une aile, si j'ose dire, à quoi ressemble-t-il le morpho?
Bah, les morphos, il y en a une trentaine, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'il y en a 30 espèces, peut-être un peu plus. Dans le genre morpho, il y a 30 espèces, donc ils n'ont pas tous la même allure. Hein. Mais enfin, globalement, ce qui caractérise la plupart des espèces de morphos et les plus connues, c'est leur taille. D'abord, c'est des grands papillons.
12-20 centimètres.
D'un bleu. Iridescent. Enfin, c'est l'iridescence aussi qui les caractérise, c'est-à-dire le fait qu'ils changent de couleur selon l'angle sur lequel on les regarde. Et c'est des papillons fait absolument fascinants. Alors, bon, en boîte, c'est pas mal, mais dans la nature, c'est tout à fait extraordinaire.
C'est tout à fait autre chose.
Et donc, d'autant plus qu'ils ont un vol extrêmement irrégulier pour échapper aux prédateurs. Donc, ils sont, je pense, assez difficiles à attraper. Enfin, moi, mon propos n'était pas du tout d'en attraper.
Non.
Mais c'est véritablement, même quand on... on peut en voir des empaillés, si je puis dire, chez des rôles, par exemple, mais ça n'est pas du tout la même chose, bien entendu, de les voir dans leur milieu naturel, en train de voler. Quoi. C'est très spectaculaire et très, 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 très réjouissant.
Chasser, les attraper, pour les chasseurs de papillons, c'est un petit peu comme mettre la main sur le Graal. Et il y en a donc dans cette Guyane où vous nous emmenez. Et c'est donc en Guyane, justement, au tout début du XXe siècle, un certain Eugène Le Mou, je ne sais pas s'il faut prononcer...
Le Moult,
voilà, va partir donc à la chasse aux papillons et vous partez sur ses traces à lui aussi, Jean Rollin. Eugène Le Moult, c'est un des plus grands naturalistes français, en tout cas c'est comme ça qu'il est souvent présenté. Il vendait aussi des insectes, c'est un spécialiste, mais c'était aussi un collectionneur et un excellent vendeur. Mais la dimension scientifique du personnage, à vous lire, on peut avoir quelques doutes.
Enfin, je précise quand même qu'il est l'auteur d'un livre, enfin, il est l'auteur avec un autre type, donc Réal, je crois, et d'un livre qui longtemps a fait autorité sur les morphos. Hein. C'était un entomologiste, c'était un lépidoptériste, on ne peut pas lui dénier cela.
Mais il avait un sens en scène lui-même.
Mais il était, oui, d'une très grande vanité, enfin, qui transparaît dans son livre « Mes chasses aux papillons ». Et par ailleurs, il avait un sens aigu du commerce et il ne s'est pas contenté de chasser les papillons. D'ailleurs, il le dit explicitement. Il dit « je voulais aussi qu'on en chasse pour moi ». Et qu'on en chasse pour moi, pourquoi ? Pour en avoir suffisamment nombreux pour les vendre. Et finalement, il s'est trouvé à la tête, ça a duré pendant des dizaines d'années, il s'est trouvé à la tête de collections absolument phénoménales. Peut-être, lui prétend que c'était les plus grandes du monde, je pense qu'en effet c'était certainement une des plus grandes collections du monde, mais dans un but qui n'était plus
purement scientifique.
Non, même qui était principalement commercial. C'était aussi le plus grand dealer de papillons en Europe.
Voilà, et vous écrivez, Jean Rollin, que cet homme, c'est l'inventeur de cette association du bagne et des papillons. C'est donc celui qui explique le lien sur lequel vous enquêtez.
Voilà. Oui, parce que le moult, il est pratiquement né dans le système carcéral en Guyane. Son père était ingénieur des travaux du bagne. Donc il a passé une partie de son enfance là-bas, il s'est familiarisé avec ce milieu, enfin dans les deux sens du mot, d'ailleurs le milieu amazonien et le milieu carcéral, et il s'est mis à chasser les papillons, et il a eu très rapidement donc cette idée de mettre les bagnards au boulot. Quoi.
Voilà, il paye les bagnards, il paye une misère pour lui-même se faire de l'argent.
Oui, vraisemblablement, en fait, ce qui ressort, en attendant, c'est pas de la malveillance de ma part, naturellement lui présente les choses de manière complètement différente dans son livre, mais enfin là j'ai quand même pris la peine de me référer, d'aller, comme je le disais tout à l'heure, aux archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence, de consulter des rapports d'inspecteurs des colonies, genre à des périodes différentes, tous ces rapports dénoncent ce commerce, et notamment à cause de son caractère parfaitement inégal. C'est-à-dire que en effet, les forçats sont payés des clopinettes. Les matons qui assurent l'intermédiaire sont payés un peu plus. Et finalement, le moult est celui qui tire les marrons du feu. Enfin, lui, il les vend cher à des collectionneurs, etc. Donc il a quand même bâti une fortune là-dessus, alors que ça a certainement mis un peu de beurre, vous voyez, dans les épinards des forçats.
Bon, ouais. Pas beaucoup. Alors justement, les forçats, c'est intéressant aussi parce qu'on rentre aussi brièvement dans le fonctionnement du bagne. Et vous expliquez notamment qu'il y a en fait deux types de bagnards, les relégués et les transportés. Vous nous expliquez, Jean Rollin ?
Mais en fait, les bagnards à proprement parler, les forçats à proprement parler, c'est les transportés. Qui s'appelaient ainsi à cause de leur transport en Guyane, depuis la métropole, et qui, eux, sont généralement, enfin, ce qu'on peut désigner comme des criminels endurcis, des gens qui avaient souvent des crimes de sang sur le dos. Pas toujours, puisqu'il y en a un qui a écrit un livre que je cite, qui est un très beau livre, d'ailleurs, qui s'appelle Belle-Benoît. Belle-Benoît n'avait commis aucun crime de sang. Enfin, souvent, c'était quand même des délinquants ou des criminels sérieux. Bon, ceux-là, c'était les transportés. Ils étaient condamnés à une peine de travaux forcés. Incidemment, au bout de 8, si leur peine était égale ou inférieure à 8 ans, au terme de leur peine, ils devaient se repayer la même durée astreint à résidence en Guyane. Ou, comme ils n'avaient pas de travail, ils étaient absolument condamnés à retomber dans une forme quelconque de délinquance, donc c'était sans fin. Et si leur peine était supérieure à 8 ans, de toute façon, ils étaient à perpète en Guyane. Et à côté de ça, il y a les relégués. Alors les relégués, c'est des gens qui n'avaient commis que des délits mineurs, mais des récidivistes. Et je pense que c'est à l'époque de Napoléon III, me semble-t-il, enfin je peux me tromper, qu'on a, on a conçu cette loi merveilleuse qui reléguait à perpétuité en Guyane les auteurs de délits mineurs, mais multirécidivistes. Et donc, eux étaient astreints à un régime un peu moins dur, et ça leur laissait plus de temps pour chasser les papillons pour le moult.
Sofene wini, uji sai kombinate fu kibi mi otafe changi, fu peke mi wini. Efu me asuku sama uduengi mi, efu me benki sama ubenki mi. Mina ipecha igoba milibi, usefe shi sai pasa inyalibi. A violonse fiko ipi. Hey, lukufa konde fanya, lanti zefe ama epia. Ala dena wansem sanya oge dewe chayongbiyan. Lukufa konde fanya, lanti zefe ama epia. Uye, uye. Trop de changements vitesse, cette génération nous a choqués.
Je vous parle de la vie d'aujourd'hui, pas d'histoire ni de vie inventée. Ici la rue ça blague pas, fais gaffe sinon toi tu te feras enterrer. Aujourd'hui t'es là, demain tes proches peuvent te dire adieu. J'ai grandi avec des problèmes, dans la vie personne n'aime les problèmes. On finira tous par et frérot t'as faim comme moi si j'ai faim. Luttons contre la violence, un pays si beau, pourquoi faire la guerre? Nous sommes pas en guerre, luttons contre on peut le faire. Yeah, sans mani, nous on finit, t'es mieux au fétif, t'aimes tort. Dis-moi combien fait tiens, ni à gapet, à kayao. La Guyane, mon d'un chingi, tu vois, oui, chope, mi go. Oui, chauffa, oui, mi. Hey, yeah, yeah. Sans mani, nous on finit, t'es mieux au fétif, t'aimes tort. Dis-moi combien fait tiens, ni à gapet, à kayao. La Guyane, mon d'un chingi, tu vois, oui, chope, mi go. Oui, chauffa, oui, mi. Hey, yeah, yeah.
Teki qui chante la Guyane, tout simplement, dans VMDN sur RFI avec l'écrivain Jean Rollin pour son livre Les Papillons du Bagne chez POL. Un livre dans lequel vous nous emmenez en pirogue à travers la Guyane, sur les méandres du Maroni et de l'Oyapock, avec un petit crochet par le Suriname voisin, avec un piroguier nommé Hendrik, compagnon d'une restauratrice nommée Carmen, coiffée, écrivez-vous, d'une charlotte en plastique translucide, comme si elle sortait de la douche. Il vous suffit comme ça d'un petit détail, au détour d'une phrase ou d'un paragraphe, et tout de suite, vraiment, c'est très subreptice, mais le personnage apparaît tout de suite dans toute sa splendeur. Et il y en a énormément des personnages comme ça dans ce livre, genre là, on papillonne, sans mauvais jeu de mots, de l'un à l'autre, et comme beaucoup de papillons, eh bien, ils sont vraiment haut en couleur. Vous rencontrez comme ça toujours des gens extraordinaires au sens premier du terme, ou bien c'est vous qui, pour le lecteur, les rendent extraordinaires.
Non, mais je rencontre des gens de toutes sortes, mais je ne mets...
Que les plus intéressants.
Oui, que les plus intéressants, voilà. Et, et cette restauratrice, Carmen, bon, alors, effectivement, c'est quand même pas fréquent qu'une restauratrice vous serve avec une charlotte en plastique sur la tête.
Mais là, on se dit, c'est du roman.
Non, c'est pas du tout. Rien de ce que je dis de Carmen n'est inventé, moi. Y compris le fait que j'étais le seul client de ce restaurant, d'ailleurs, ce dont elle se désolait, bon. Et qu'elle évoquait le passé glorieux, enfin bon, comme c'était toujours mieux avant, mais en ce qui la concerne, je pense que c'était vrai. Où son restaurant était, semble-t-il, plein, enfin au moins en saison, justement, de lépidoptériste français, enfin, ou de chasseur de papillons, ou d'entomologiste. Et ben là, elle n'en voit plus. Et oui, son bistrot s'appelle Lagami. Et Lagami, qui est le nom d'un oiseau qui ressemble un peu à une pintade et qu'on rencontre dans la forêt amazonienne.
Voilà, vous en avez croisé quelques-uns.
Et qui pousse un cri très désagréable, dont des auteurs ont cru remarquer qu'il ressemblait à un paix.
Voilà, ce qui là aussi laisse la porte ouverte, si j'ose dire, à beaucoup de rêves ou de cauchemars. Nouvel extrait du livre, Jean Rollin, nous sommes à la page 141 et cette fois-ci, vous êtes avec Hendrik, donc le compagnon de cette restauratrice Carmen.
Nous avions doublé la pointe de l'île Portal et accosté brièvement à proximité d'un village indien avant de rallier Albina, où Hendrik, comme tout le monde à Saint-Laurent, devait avoir l'habitude de se ravitailler en produits tels que l'essence, dont les hasards du commerce font qu'ils sont moins chers au Suriname. Une contrebande, je le précise, parfaitement légale, ou du moins tolérée, ainsi qu'en témoignait la présence d'une embarcation de la police ou de la gendarmerie, se balançant au milieu du fleuve, comme si elle présidait au mouvement incessant des pirogues d'une rive à l'autre. De la terrasse du bistrot où j'attendais, avec une certaine impatience, que Hendrik eût terminé de faire ses courses, bistrot dont les tables étaient toutes garnies de pièges à insectes d'un modèle pour moi inédit, fait d'un carré de papier gluant posé à plat et bientôt hérissé d'un frémissant tapis de mouches, je voyais presque à toucher ma table un flic surinamien dont l'aspect effrayant du fait de sa carrure, de sa position, jambes écartées et les poings sur les hanches, de ses lunettes aviateur et de son épaisse barbe rousse me rappelait à chaque instant que pour ma part, j'étais dépourvu non seulement de visa, mais de tout document d'identité. Au-delà du flic, qui en réalité se souciait de moi comme d'une guigne, on voyait s'étirer entre la ville et le fleuve une plage de sable modérément souillée de détritus parmi lesquels s'affairaient nombreux des urubus et de plus rares pluviers. De retour à Palambala, j'ai été surpris par une averse qui fit se déployer juste sous mon balcon, d'un bord à l'autre du ravin, le plus petit arc-en-ciel que j'ai jamais eu l'occasion d'observer. Un arc-en-ciel à mon usage exclusif en quelque sorte.
Et les urubus et les pluviers, ce sont des oiseaux. Vous parliez il y a un instant de l'agami, l'agami trompette. Hein,
l'agami trompette, aussi. Mais trompette à cause de ce bruit
voilà,
que j'ai mentionné.
Voilà, à cause de ce bruit que vous avez mentionné, voilà. Et il y a quelques autres volatiles aussi dans le livre. D'ailleurs, vous avez beaucoup observé les oiseaux, Jean-Rollin,
et oui, pas oui, que pour ce livre. Il y a toujours des oiseaux dans mes livres.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans les oiseaux, singulièrement? C'est la plume.
Oui, je ne suis quand même pas le seul à m'intéresser aux oiseaux, c'est devenu une passion,
non.
Heureusement, assez largement partagée. Mais non, c'est une des rares choses que j'ai, que j'ai fait pendant pratiquement toute ma vie. Enfin, en tout cas, bon, à part une période peut-être de ma jeunesse, mais dans mon enfance et dans la plus grande partie de ma vie, j'ai toujours observé des oiseaux. Parce que c'est tout simplement parce que c'est joli, c'est magnifique, c'est joli, enfin c'est visuellement leur chant est agréable, enfin pas nécessairement d'ailleurs, il y a des oiseaux qui ont un chant désagréable, mais c'est passionnant. Après plus on connaît le nom de telle ou telle espèce, etc., plus on s'y intéresse. Enfin, c'est un processus assez classique. Hein. Les gens qui n'y connaissent rien pensent que tous les oiseaux sont pareils.
Grave erreur.
Quand vous commencez à savoir les distinguer et à reconnaître et à distinguer leur chant, etc., ça devient tout à fait passionnant, comme l'est en général une collection. Mais là, c'est une collection d'êtres vivants et à la liberté desquels on n'attend absolument pas.
Alors justement, il y a les oiseaux. Vous avez aussi écrit sur les chiens, les chiens solitaires. Aussi les papillons, dans quelle mesure, Jean-Rollin, les animaux et l'observation des animaux nous renseignent-elles sur la réalité de l'être humain, de ce que nous sommes, nous? Est-ce que c'est un miroir?
Oui, enfin, là, j'ai écrit un livre sur les chiens errants, donc là, c'est encore une autre affaire.
C'est autre chose.
Parce qu'effectivement, les chiens errants illustrent quantité d'aspects généralement, d'ailleurs, négatifs de de l'humanité. Et de l'histoire. Hein. Là, les oiseaux, enfin, rien de tragique ne s'attache particulièrement aux oiseaux, enfin, en dehors du fait qu'on organise leur disparition, ce qui est déjà
assez
tragique.
Alors justement, est-ce que c'est finalement par les animaux, par le prisme des animaux, que l'on découvre ce qu'est réellement l'être humain ?
Oui, enfin moi, ce qui m'intéresse, ce qui me préoccupe aussi dans les oiseaux et une des raisons pour lesquelles je redouble d'attention à leur égard, c'est que, par exemple, en France, les oiseaux des champs sont en train de disparaître du fait de techniques agricoles qu'on vient plus de renforcer encore à l'occasion de nouvelles mesures, de nouvelles concessions aux agriculteurs. Je comprends très bien les revendications des agriculteurs, mais enfin le problème c'est qu'elles sont peu compatibles avec la préservation ou la restauration de ce qu'on appelle la biodiversité. Et donc les oiseaux des champs, les alouettes par exemple, mais beaucoup d'autres espèces sont gravement menacées, quoi, et leurs effectifs se réduisent continuellement. Parce qu'il n'y a plus d'insectes, donc il n'y a plus d'oiseaux insectivores, et ainsi de suite. Quoi. Donc je suis d'autant plus désireux de les observer et peut-être d'inciter des gens à faire la même chose que beaucoup d'espèces, que globalement, disons, les oiseaux sont menacés. Ce n'est pas le cas de tous. Hein. Les merles, par exemple, ne sont pas menacées. Les merles sont devenues, se sont urbanisées, si je puis dire. Chacun peut s'en assurer le matin, en ce moment, en ouvrant ses fenêtres.
Oui, les pigeons non plus.
Voilà, les oiseaux qui vivent, qui se trouvent bien dans les villes, ne sont pas menacés. Les mésanges charbonnières, les merles, les pigeons, les corneilles, les pies, tout ça, ça va pour eux. Voilà.
Voilà. Alors, il y a les oiseaux et puis il y a aussi les méandres des fleuves guyanais, dont je parlais tout à l'heure, et des méandres, il y en a aussi, Jean-Rollin, dans votre écriture, avec ce style que l'on reconnaît vraiment tout de suite, hein, ces longues phrases qui ondulent avec des liés et des déliés, avec des incises que l'on prend pour de courtes digression, mais qui en disent très long. Et c'est très étonnant parce qu'on sent à la fois, quand on vous lit, et vraiment j'ai lu le livre vraiment d'une traite, hein, c'est très étonnant quand on vous lit, on sent à la fois la simplicité, le naturel et le côté très travaillé, très ciselé de la langue. Quelle est la part du premier jet, comme on dit, dans ce que le lecteur a sous les yeux quand il ouvre le livre de Jean-Rollin?
Bah, c'est difficile à dire, mais quand une phrase n'est pas bien, surtout une phrase longue, justement, ciselée, comme vous dites, n'est pas bien du premier jet, il est à craindre qu'elle ne le soit jamais. Hein. Donc, alors après, c'est le Non, ça va bien. Je reprends, je corrige beaucoup, mais je corrige des détails. Mais enfin, en règle générale, la phrase, elle vient dans son entier, voilà, dans son entièreté.
Donc avec la musicalité de la langue, avec le souffle, et en même temps, avec la précision qui est dedans.
Cette musicalité, elle ne peut venir que d'un coup. Je ne sais pas, si vous construisez la phrase par petits morceaux, elle n'aura jamais cette musicalité et cette fluidité. Donc oui, c'est d'un premier jet, mais d'un premier jet revu par la suite et corrigé.
Mais alors la musicalité, justement, pour vous, elle vient des mots, elle vient des sonorités des mots, elle vient aussi du rythme de la phrase, de cet ensemble-là.
Oui. Mais c'est bien que je ne teste ça sur personne, parce que je n'ai personne sous la main en permanence pour tester ce que j'écris. Puis d'ailleurs, je ne souhaiterais pas ça à quiconque.
Oui, vous avez mais un Deloire comme non, celui de Flaubert, non ?
Dans ma tête, c'est tout.
Dans votre tête,
mais
exclusivement.
On entend parfaitement la sonorité d'une phrase dans sa tête. Hein.
Mais alors, sur cette question des digressions, qui reviennent encore une fois très très souvent, elles arrivent vraiment lors de la première écriture, vous les rajoutez ensuite. Comment est-ce que vous construisez une phrase du point de vue des idées cette fois-ci et pas seulement du point de vue de la langue et de la musicalité ?
Non, mais on ne peut pas les rajouter par la suite, les digressions, parce que là ça ne collerait pas. Je pense
que
si on les rajoute par la suite, la phrase sera
cela.
Déséquilibrée. Oui. Enfin, je ne sais pas. Vous savez, tout ça est quand même un peu spontané aussi, donc je ne sais pas trop comment je procède. Mais en général, l'idée, elle me vient dans sa totalité, oui. Y compris celle des incises, celle des parenthèses, celle des... Voilà, je veux exprimer un certain nombre de choses.
Quelle est la force d'une parenthèse, Jean Rollin ? Parce qu'il y a des écrivains qui n'aiment pas les parenthèses. Il y a des écrivains qui n'aiment pas les points d'exclamation, qui n'aiment pas les points virgules. Vous aimez les parenthèses.
Oui, j'aime bien les parenthèses. J'aime bien mettre des phrases entre tirets également.
Aussi.
Mais ça permet justement de coller beaucoup plus de choses dans la même phrase. Quoi, voilà. Et puis ça souligne souvent le... Bon, il peut y avoir une dimension légèrement ironique dans l'usage de la parenthèse. Ça souligne peut-être que ce qui est entre parenthèses est d'une importance un peu moindre que ce qui ne l'est pas. Mais ça peut être, à contrario,
ça
quelque chose de plus
aussi.
Important. Voilà, oui.
Et donc on est vraiment dans un jeu, finalement, entre vous le lecteur en permanence. Faire simple, faire naturel, c'est une discipline très stricte, quand même, Jean Rollin, ou c'est parfaitement naturel ? Il y a une forme de jugulaire que vous accolez comme ça à votre plume, de jugulaire mental, évidemment.
Non, mais là, je ne suis pas en train de dire que j'écris facilement. Je veux dire que
mais je vous pose la question. Parce que le lecteur a cette impression-là.
Ces longues phrases me viennent, en effet, sous cette forme-là, mais elles ne me viennent pas tous les jours et à toute heure. Hein. Par ailleurs, je ne fais pas partie des écrivains. Ça m'agace un peu, d'ailleurs, quand je lis des interviews, mais je ne sais pas pourquoi ça m'agace, d'ailleurs, parce que ça les regarde, mais des écrivains qui se lèvent à 6 heures du matin, ils boivent une tasse de thé brûlant, ils font un jogging, ils reviennent, ils mangent un œuf sur le plat, ils se mettent à leur table de travail, ils y restent 5 heures d'affilée. J'aimerais
pouvoir dire... Il ne fonctionne pas comme ça,
vous. Non, moi j'écris quand je peux. C'est quand même, en effet, plus souvent... D'abord, il y a des jours entiers où je ne peux pas. Où justement, je n'ai pas cette facilité, je veux dire, à articuler de longues phrases qui signifient quelque chose. Donc, dans ces cas-là, c'est toujours assez difficile. Quand je suis dans une période d'écriture et que je constate le matin que je n'arriverai à rien, ce n'est pas agréable. Mais au bout d'un moment, je renonce, je ne m'obstine pas et je vais me balader. Voilà. Mais c'est quand même plus souvent le matin. C'est vrai qu'on est en général... On a l'esprit surtout, je pense, en vieillissant, on a l'esprit un peu plus vif le matin. Pas au saut du lit, hein. Mais au bout d'un moment, c'est quand même dans la matinée, souvent, qu'on a des moments les plus fructueux pour l'écriture.
Est-ce que votre style n'a pas une dimension oxymorique, Jean Rollin ? Parce que moi, quand je vous lis, j'ai l'impression d'une sorte de nonchalance ardente. Je ne sais pas si vous,
reprenez à votre compte
cet oxymore-là.
Oui, tout à fait, oui. Mais développez-le, parce que moi, je n'y avais pas pensé. Mais
voilà, une nonchalance, parce qu'il y a une forme de simplicité, presque une forme de dandisme aussi, d'une certaine façon.
Peut-être,
et en même temps, il y a quelque chose de très brillant, de très ironique aussi. Oui, il y a une forme de dandisme. Vous êtes un dandy de l'écriture ?
Non, je ne sais pas, c'est un peu prétentieux. Ce serait un peu prétentieux de me définir comme un dandy de l'écriture. J'ai quelque chose d'assez agaçant dans la figure du dandy. Quoi. Mais c'est vrai que oui, j'ai une certaine distance avec les choses que j'observe, les choses dont je parle, etc. Dans ce sens, on peut parler de distance. Voilà. La distance et quelquefois de l'ironie, mais l'ironie, c'est surtout par rapport à moi-même. Hein.
Oui, il y a Christian Autier, notre confrère du Figaro, qui dit que vous avez un humour d'officier anglais. Là aussi, ça vous va ?
Oui, ça m'avait fait marrer, effectivement, cette formule. Il faut pas, tous les officiers anglais ne débordent pas d'humour. Mais je pense qu'ils pensaient, notamment à ceux qui ont écrit. Il y a une forme, disons, d'humour britannique qui n'existe pas seulement chez les officiers, et même pas principalement chez les officiers, ouais. Mais que j'apprécie beaucoup. Enfin, il y a beaucoup plus d'auteurs britanniques drôles que d'auteurs français drôles. Ou en tout cas, disons que l'humour britannique, en effet, me plaît plus que l'humour à la française. Voilà.
Merci.
De façon générale.
Merci beaucoup, Jean Rollat. Les papillons du bagne chez POL. Et après les papillons, voici Le Temps des fleurs et la voix de Pomme sur RFI. Lisa Giraldini.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre en ce moment à la Gaîté Lyrique. On est vraiment au cœur de Paris. Se tient l'exposition Coalition avec des œuvres d'art de tous les styles. Ce qui les rassemble, ces œuvres, c'est d'abord la question de l'écologie et du vivant. Avec 50 artistes réunis qui ont aussi un autre point commun, Lisa, ils ont tous été lauréats du prix Coal.
Oui, exactement. Coal, c'est une association de référence pour l'art et l'écologie. Elle fête ses 15 années d'existence avec cette exposition Coalition qui regroupe donc certains des travaux artistiques lauréats du prix depuis sa création. Laurane Germont est la cofondatrice et directrice de l'association. Elle évoque différentes manières d'aborder la question de l'écologie par l'art.
Il y a des artistes qui vont témoigner, rendre compte de la réalité de l'anthropocène, des pollutions, des phénomènes qui souvent sont invisibles ou imperceptibles dans les échelles de temps et d'espace qui sont les nôtres. Et donc, une partie de la création va avoir pour vocation de témoigner des catastrophes, des destructions, etc. On ne voulait pas non plus une exposition qui soit exclusivement sur des approches catastrophistes, etc. Ça, c'est une des typologies de pratiques. Il y a tout un autre champ de pratiques qui va être plutôt sur comment faire émerger des pratiques de résilience, de réparation, d'autres manières de produire, découvrir des modalités d'action, de transformation, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'artistes qui vont travailler des matériaux naturels, faire revivre des savoir-faire, en inventer des nouveaux, renoncer à toute une typologie d'usage, de façon de faire, etc., qui sont trop éloignées des équilibres écologiques.
Et l'association met aussi en avant des pratiques artistiques dites transformatrices en dehors de l'enceinte des musées.
Oui, c'est ça, quoi. Elle présente souvent certaines œuvres dans des lieux atypiques. Les œuvres mêlent jardinage, artisanat ou encore relation à l'autre. Elle vise non seulement à changer nos manières d'être au monde, mais aussi à se transformer soi-même par rapport à notre conception du vivant, notre sensibilité à la nature et en général. Sarah Dufour est commissaire de l'exposition et directrice de programme chez Coal.
Dans cette exposition, on a vraiment voulu mettre l'ensemble l'ensemble de ces pratiques à l'honneur. Évidemment, l'heure est tout sauf joyeuse à certains égards. Et en même temps, ces artistes-là ramènent justement beaucoup de la joie, du possible, de l'attention, d'autres manières sensibles d'être au monde qui sont finalement très positives, très exaltantes. Et c'est aussi ce qu'on a voulu mettre dans l'expo.
En exposant le travail de toute une génération d'artistes engagés autour du vivant, Coalition veut à la fois nous alarmer sur la gravité de notre impact écologique, mais aussi nous inviter à agir. Certaines des œuvres exposées suscitent un certain optimisme, ou du moins une vision d'avenir.
Ce que je trouve intéressant dans ce que présentent les artistes aussi, c'est qu'ils nous apportent des solutions. C'est-à-dire que face aux problèmes, au pluriel, auxquels nous faisons face, il n'y a pas une solution. Il faut en déployer des milliers. Et il y a plein de manières d'approcher, de réparer, de s'engager. Et je pense que c'est ça aussi que les artistes nous montrent dans cette exposition, c'est que à travers ces formes qui peuvent paraître plastiques et parfois un petit peu, on va dire, éloignées du terrain, au contraire, ce sont souvent des formes qui sont engagées par ailleurs sur différents terrains, avec des artistes qui eux-mêmes s'engagent à différents endroits, à différentes échelles, sur mille et un sujets dont on doit se préoccuper aujourd'hui.
Alors, vous avez mentionné, Lisa, différentes pratiques d'un art écologique, des témoignages, des messages d'alerte, des propositions de solutions. Mais comment tous ces genres d'actions sont traduits concrètement en œuvres d'art ?
Eh bien, par exemple, l'une des premières œuvres de l'exposition est une vidéo d'une dizaine de minutes qu'on regarde dans une chambre insonorisée. L'artiste japonaise Momoko Seto a filmé en gros plan et au ralenti des abeilles, des criquets ou encore des grillons piégés dans la glace. Les insectes se réaniment au fur et à mesure que la glace fond sous l'effet du réchauffement climatique. Avec ce court-métrage titré « Planète Sigma », elle donne à voir la grande histoire du vivant, la fonte des glaces, l'apparition de la vie, puis l'extinction des espèces.
Une autre partie de l'exposition est titrée « L'art de la révolte » et là on trouve une œuvre du duo « Art orienté objet », des pionniers dans la défense de la cause animale par l'art.
Oui, Marion Laval-Janté et Benoît Mangin font partie d'un groupe d'activistes qui occupent de grands arbres pour les sauver de la coupe. Dans l'exposition, on peut retrouver leur œuvre « Tenue de l'éco-combattant ». C'est un mannequin avec un casque solaire, des porte-tracts, une poche de faux sang ou encore des chaînes et des cadenas. D'autres artistes cultivent la résistance au sein même de leur pratique artistique. C'est notamment le cas de Louis Guillaume qui travaille les matériaux naturels de son environnement. Ici, il expose une silhouette sculptée à partir d'une herbe graminée.
C'est des graines de Stipa tenusima, c'est une graminée qui vient du Mexique. Et là, je suis parti sur la représentation d'une femme enceinte, la marque d'une certaine forme de fertilité. Et en fait, cette pièce est présentée sur un tapis. C'est une superposition de couches de matière qui fait qu'une matière se sert d'une autre pour se maintenir. Parce qu'au-dessus, en fait, j'ai la bourre de peuplier que je récolte également. En fait, mon travail, c'est vraiment de la récolte. Je viens la brûler à différents endroits pour dessiner des motifs, pour aussi respecter la matière, c'est-à-dire la couleur que j'ajoute, elle vient en soi elle-même de la matière, c'est juste un rapport de chaleur. Donc voilà, là il y a de la bourre de peuplier, de la stipa et du chanvre.
Autre œuvre qui m'a particulièrement marquée dans cette exposition et qu'on entend actuellement, La mémoire des glaciers de l'artiste Angelica Marcoul. C'est une installation 360 degrés immersive dans une salle au mur de plusieurs mètres de haut. On y voit plus d'une centaine de visages de cire qui représentent les fantômes du peuple amérindien. Et sur un écran géant, on assiste impuissant à la fonte d'un immense glacier situé entre l'Argentine et le Chili. Laurent Germont, commissaire de l'exposition.
Là, effectivement, c'est aussi une œuvre très dense sur ce sentiment de perte, sur cette disparition irrémédiable des glaciers, mais aussi des peuples. Donc une installation qui part de la Terre du Feu, enfin, Tierra del Fuego, en Patagonie, qui d'ores et déjà abritait pendant des milliers d'années un peuple qui a été décimé par l'arrivée des Occidentaux. Et aujourd'hui, c'est le glacier de Patagonie qui s'effondre et qui fond à son tour. C'est vraiment une installation monumentale et très immersive, cette symphonie à la mort du glacier.
L'œuvre Noire de carbone d'Anaïs Tondeur met en lumière la quantité de particules présentes dans les fibres de nos masques respiratoires. L'Ophélie de Martin Le Chevalier présente une voiture engloutie dans le sol en référence à notre addiction à celle-ci. Je ne peux pas tout citer ici, mais maintenant vous pouvez aller voir par vous-même.
Voilà, une exposition Coalition, 15 ans d'art et d'écologie à retrouver à la Gaîté Lyrique à Paris jusqu'au 2 juin. C'était Lisa Giroldini. Dans une poignée de secondes, le journal en français facile sur RFI. On se retrouve demain, bien sûr, avec de la bande dessinée et le scénariste et dessinateur belge Olivier Grand pour son album Le Partage des Mondes aux éditions du Lombard, et vous m'en direz des nouvelles.